Voilà, on va ouvrir la parole ce soir ensemble dans le premier livre de Samuel au chapitre 16, verset 1er. 1 Samuel chapitre 16, verset 1er. Et je voudrais ce soir m'arrêter sur quelque chose qui nous concerne tous. Il y a parfois des messages, des thèmes qui sont abordés dans les différentes réunions. Et des fois, ça peut concerner quelqu'un ou quelques-uns et pas forcément tout le monde. On se dit, bon, ben ça ne me concerne pas trop. Et c'est comme ça. Mais ce soir, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Et je voudrais tellement que vraiment on puisse, au travers de tout cela, dire au Seigneur, parce que c'est de ça dont il va s'agir, je t'apporte mon cœur. Hein. Alors regarde avec moi. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Vous noterez quand même au passage, et c'est intéressant, que Dieu ne déroule jamais le plan en entier. Il dit toujours les choses au fur et à mesure, qu'on a besoin de les savoir. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, mais encore, non, mais ça viendra. Hein? Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Si tu me le disais avant, ça serait mieux. Non, celui que je te dirai. Voyez. Donc si peut-être ce soir... On attend que Dieu nous déroule tout le plan jusqu'au bout, on risque d'être un peu déçu, parce que Dieu le fait toujours au fur et à mesure qu'on a besoin de le savoir. Voyez. Donc Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, alléluia, hein. Il alla à Bethléem, et les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Et lorsqu'ils entrèrent, il, c'est-à-dire Samuel, se dit en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà. C'est un texte sur lequel, un passage sur lequel beaucoup de prédicateurs ont déjà prêché. Et notamment ce fameux verset 7, hein, où il y a quand même cette parole qui est tellement importante, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce qui m'a interpellé dans cette lecture, c'est que vous avez dû le voir avec moi, deux fois en 7 versets, à propos de deux hommes différents, Dieu dit, je les ai rejetés. Et je crois que c'est une parole suffisamment forte, qui vient de la bouche du Seigneur, pour que ça puisse nous arrêter et nous interpeller. C'est fort quand même. Dieu qui dit, je l'ai rejeté. Voyez. D'abord concernant Saül, et après concernant Éliab. Voyez. Il y a un autre homme dont il est dit aussi explicitement qu'il a été rejeté, c'est Ésaü. Quand vous allez dans l'Épître aux Hébreux, on va le mettre. Hein. Hébreux chapitre 12. Je ne l'ai pas mis. Si. Voilà. Rappelez-vous, il est dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et il est dit, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mai, vendit son droit d'aînesse. Regardez verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Voyez, encore une fois. Quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Il fut rejeté comme Saül. Et comme Éliab, hein, voyez, et je crois que c'est des paroles suffisamment fortes pour que ça nous interpelle, pour que ça nous fasse réfléchir. Voyez. Finalement, la question c'est qu'est-ce que Dieu a rejeté? Parce que dans l'absolu, Dieu ne rejette personne. Voyez. Et je crois que c'est important de réaliser que c'est pas quand Dieu dit à propos de Saül, je l'ai rejeté, ce n'est pas l'homme qu'il rejette. Quand il dit à propos d'Éliab et d'Ésaü qu'ils ont été rejetés, ce n'est pas l'homme en lui-même qu'il rejette, parce que dans l'absolu, Dieu ne rejette personne. On sait que l'appel du Seigneur, ça sera toujours de dire « venez à moi ». Donc, il n'y a pas de rejet. Non, ce que Dieu a rejeté dans ces trois situations, c'est leur état de cœur. c'est leur disposition de cœur. D'ailleurs, dans le contexte, on l'a lu, c'est de ça dont il est question. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est ça que Dieu a rejeté. C'est leur état de cœur, c'est leur disposition de cœur. Et ce soir, je voudrais que, moment, quelques instants, on parle de ça. Des dispositions de notre cœur. Et ça, ça nous concerne tous. Qui que nous soyons, ça, on est tous concernés par ce sujet-là. Et je voudrais nous poser la question, dans quel état est mon cœur ce soir ? Quelles sont les dispositions de mon cœur ? Voyez ? Parce que c'est tellement important. Parce que c'est ça que Dieu regarde en priorité. Le reste, c'est secondaire. Le reste, ça passe après. Tout ce qui peut avoir de la valeur aux yeux des hommes, ça passe après. Pour Dieu, le plus important, c'est d'abord l'état de mon cœur et les dispositions de mon cœur. Voyez ? Je reviens à ces hommes-là. Éliab, c'est Samuel. Samuel, c'est un homme de Dieu. Et Samuel, quand il a vu arriver ce garçon, il s'est dit, c'est lui. C'est lui, il était convaincu. La mouche, elle veut se convertir, là, j'ai l'impression. Vous voyez ? Je ne sais pas si elle veut se convertir. Sinon, voilà, rejeter aussi. On va la rejeter aussi. Vous voyez ? Hein, mais Éliab, si Samuel, même lui, a été un peu pris, c'est parce qu'il présentait bien. Il devait certainement bien présenter, belle allure, belle prestance. Aujourd'hui, certainement, il aurait été en costard-cravate, pas comme moi, vous voyez. Mais bon, il aurait été, vous voyez, belle prestance, tout ce qu'il fallait. Mais Dieu dit, non, je l'ai rejeté. Non, je l'ai rejeté. Pourtant, Éliab, ça veut dire Dieu est mon père. Avec un nom comme ça, Dieu est mon père, vous voyez. Mais Dieu dit, je l'ai rejeté. Vous voyez, comme quoi Dieu ne s'arrête pas à la prestance, Dieu ne s'arrête pas à l'apparence du nom. L'état de son cœur n'est pas bon. Vous prenez Saül, duquel Dieu dit, je l'ai rejeté aussi. Pourtant, Saül, à ce moment-là, il a le titre de roi, il l'a toujours. À ce moment-là, il exerce encore l'autorité royale, vous voyez. Mais malheureusement, l'état de son cœur n'est plus ce qu'il était au début. Parce qu'au début, vous vous rappelez qu'il avait pris un bon départ. Voyez ? Mais ce n'est plus ça. Voyez ? Comme quoi, ça m'amène à dire ceci, quelque part, c'est qu'au-delà des titres, au-delà des, je sais pas moi, de qui on est, des années de conversion, même si ça fait 20 ans, 30 ans et plus, au-delà de ce qu'on peut faire, que ce soit dans la vie ou même dans l'Église, des responsabilités qu'on peut avoir à l'extérieur ou même dans l'Église, ce qui intéresse le Seigneur en priorité, c'est l'état de notre cœur. On peut avoir un titre, on peut avoir tout ce que vous voulez, on peut avoir de la prestance, on peut bien parler, on peut bien présenter comme Éliab. Ce que Dieu regarde en premier, c'est l'état de mon cœur et c'est les dispositions de mon cœur. Et ce soir, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis, mais c'est tellement important parce que toute notre marche avec Dieu, elle dépend de ça. Et il ne faut pas grand-chose, un grain de sable, pour que les dispositions de mon cœur qui étaient bonnes ne le soient plus. Vous voyez ? Pour que tout d'un coup, mon cœur ne soit pas disposé comme il l'était, que tout d'un coup, quelque part, alors que jusque-là, mon cœur était tourné vers le Seigneur, tout d'un coup, il se détourne. Regardez le nombre de gens dans la Bible qui se sont détournés. Pourtant, c'était des gens qui, à la base, aimaient Dieu. Saül, au départ, il est bien parti. Je pourrais parler de Salomon et de tellement d'autres. Vous voyez ? Tout vient du cœur et des dispositions du cœur. Vous voyez ? Et la différence entre Saül et David, elle s'est faite là. D'ailleurs, regardez, on va lire la suite de l'histoire. Donc, vous vous rappelez que bon, mais les premiers fils, ils passent les uns derrière les autres. Vous voyez, les histoires de casting, ça existait déjà hein, à l'époque. Hein. Le premier, le deuxième, le troisième. Et puis, il y en a sept qui passent. Moi, j'ai toujours été étonné que le petit dernier, lui, on ne l'a même pas fait venir. On ne l'a même pas fait venir, on ne l'a même pas invité. D'ailleurs, je me mets un peu à la place de Samuel. Il a dû quand même se sentir un peu mal au bout d'un moment. De dire, quand est arrivé le septième, il devait se dire, oh, Seigneur, j'espère que c'est lui. Parce qu'alors, et puis non. Et puis il va demander, mais il n'y en a pas un autre. Si, ils le font venir. Regardez, au verset 12, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Personne ne le connaît, mais Dieu dit c'est lui. Vous voyez ? Samuel prit la corne d'huile. Et notez bien, parce que je vais y venir à ça, c'est très important. Et il l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Voyez, ce que je voudrais qu'on retienne, et je vais y revenir à ce passage, c'est quand la Bible dit qu'il l'oignit au milieu de ses frères, on pourrait dire plein de choses là-dessus. Par exemple, on pourrait dire que quand on a un appel, quel qu'il soit, c'est d'abord dans l'Église que ça doit être reconnu. Parce que dans l'Église, on nous connaît. Voyez, l'appel, c'est là qu'il se vérifie d'abord, au milieu des frères, au milieu des sœurs. Voyez, ça, c'est un aspect. Mais ce que je voudrais qu'on retienne là, c'est que s'il a été oint par Samuel au milieu de ses frères, ça veut dire que, bien entendu, Samuel était là, était témoin. Ça veut dire que le père était là et en était témoin. Et ça veut dire que tous les frères étaient là, et ils en ont été témoins de ce qui venait de se passer, de l'onction de David. À partir de là, on va pas le lire, mais David va rentrer dans toutes sortes de, comment je vais dire ça, de services. Tout de suite derrière, vous lirez ça, il va devenir joueur de harpe. Bon, il jouait de la harpe, certainement, mais il va devenir joueur de harpe pour Saül. Il va jouer de la harpe quand celui-ci lui prenait une crise. Alors, il jouait de la harpe et il va le faire. Il va le faire, voyez. Après arrive le chapitre 17. Et dans le chapitre 17, c'est un chapitre important pour David parce que c'est chapitre 17 de 1 Samuel, c'est David et Goliath. Voyez. Donc, c'est un chapitre important. Pourquoi? Parce que c'est là que va véritablement commencer la carrière spirituelle de David. C'est là que ça commence. C'est là que Dieu va l'élever aux yeux de tous. C'est là que Dieu va le, j'allais dire, quelque part, va l'élever pour le mettre en lumière. Vous voyez, c'est là que tout commence. Mais avant ce combat, il y a des petits détails qui sont là dans le texte et qui montrent pourquoi Dieu a choisi David et il a rejeté Saül. Vous savez, les détails pour Dieu, c'est important. C'est important. On dit souvent que le diable se cache dans les détails. Mais c'est vrai. Hein. Et les détails, c'est important, mais ça se vérifie dans tous les domaines. Si vous voulez savoir si un artisan il est bon, regardez dans les détails. En gros, ça a l'air bien, et puis quand des fois, quand vous regardez les détails, vous dites tout, il ne faut pas trop regarder, parce qu'alors là, ça ne va pas. Et un bon ouvrier, c'est là qu'on le voit, dans les détails. Dans un restaurant, bon, la carte peut être belle, hein, mais si vous allez faire un tour aux toilettes et que les toilettes sont dans un sale état, moi, je me pose des questions sur l'état de la cuisine. Vous voyez, les détails. Les détails. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. C'est pareil. Les détails, c'est important. Et regardez, 1 Samuel 17, donc David est au service de Saül, il joue de la harpe. Et puis, chapitre 17, ça commence en nous disant que les Philistins vont se réunir pour faire la guerre. Et donc, Saül va partir à la guerre à la tête de son armée. Regardez verset 15. 1 Samuel 17, verset 15. David s'en alla de chez Saül. Et revint à Bethléem pour faire quoi? Pour faire paître les brebis de son père. Alors, c'est intéressant ça. C'est très anodin ce qui se passe, mais c'est très important. Parce que ça montre une chose, c'est que malgré l'onction reçue, il ne rechigne pas à aller s'occuper, j'allais dire, de cette basse besogne. Voilà, de cette tâche qui n'était pas très valorisante, gratifiante. Vous voyez, mais il ne rechigne pas à le faire. Il y va et il le fait. Vous voyez, pour lui, ce n'était pas un problème. Il le fait, ce n'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est que l'onction, elle ne lui est pas montée à la tête. Vous voyez, il ne s'est pas pris tout d'un coup pour ce qu'il n'était pas. Vous voyez, et ça dénote un peu ses dispositions de cœur. Avant l'onction, il avait de telles dispositions de cœur qui ont plu à Dieu que Dieu dit « c'est lui ». Après l'onction, il n'a pas changé. Il a toujours les mêmes dispositions de cœur. Et il revient, qu'est-ce qu'il fait? Il faut aller s'occuper des brebis de papa. Eh bien, je vais m'occuper des brebis de papa. Et pour lui, ça ne pose aucun problème. Vous voyez, ça ne lui est pas monté à la tête. Vous avez des gens, parfois, dès qu'ils ont un titre ou quelque chose, vous avez l'impression qu'ils ne sont plus les mêmes. Hein. Ils ont vous leur confiez une petite responsabilité, vous avez l'impression que ça leur monte, je ne sais pas trop où. Vous voyez, c'est plus du tout les mêmes. Jusque-là, ils avaient des bonnes dispositions. Hein, mais après, vous ne pouvez plus rien leur dire. C'est disposition de cœur. Voyez. Et chez David, avant l'onction, c'était des dispositions de cœur qui plaisaient à Dieu. Après l'onction, ça n'a pas changé. Voyez. Et ça, c'est important. Et regardez, le texte continue, un petit peu plus bas, verset 17. Et ça, c'est très intéressant. Regardez. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers les frères. » Donc, le père lui demande de devenir livreur. Livreur de pain. Voyez. Mais plus que ça, porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Livreur de fromage. Voyez. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. Et qu'est-ce qu'il fait David? David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Esaïe le lui avait ordonné. Alors, ça semble anodin, hein, ce qui se passe là, mais c'est très important. C'est très important. Regardez ce qui se passe. Et c'est là que je vais revenir à ce qu'on a vu tout à l'heure quand il a été oint au milieu de ses frères. Le père, qui a été témoin de l'onction de son fils, lui demande d'aller voir ses frères, de prendre des nouvelles d'eux, et quelque part de prendre soin d'eux en leur apportant à manger. En leur apportant cet effat de grains rôtis et ces 10 pains, plus du fromage pour les chefs de milliers. Et quelque part, dites-moi, est-ce que David n'aurait pas pu réagir en disant non, stop, papa, là on va s'arrêter. C'est bien gentil, mais c'est qui a reçu l'onction? C'est moi ou c'est mes frères? C'est moi qui ai reçu l'onction. Tu étais là ce jour-là, tu as bien vu. Tu as bien vu que Eliab, c'était non. Le deuxième, il s'appelait Abinadab, c'était non. Le troisième, Shama, c'était non. Et puis tous, c'était non. Et moi, avec un grand M, c'était oui. Et moi, maintenant, je vais aller faire le livreur. Je vais aller livrer du pain, livrer des fromages, livrer des... Non, mais attends, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, ça. Moi, j'ai l'onction. Non. Il y va. Il obéit. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'en obéissant à ça, il va se retrouver au bon endroit, au bon moment, pour affronter Goliath et pour que Dieu puisse l'élever et le faire rentrer dans le plan qu'il avait pour lui. Ce qui veut dire que s'il avait commencé à se prendre pour quelqu'un d'autre, s'il avait commencé à laisser les dispositions de cœur se changer au point de ne plus être celles qui étaient les siennes au départ, eh bien, quelque part, le plan de Dieu se sera arrêté là. S'il avait dit non, ça c'est pas pour moi, moi je suis appelé à autre chose, voyez, moi maintenant je suis appelé à de hautes fonctions, voyez. Mais il ne se serait jamais retrouvé là devant Goliath, à affronter Goliath et à être élevé par Dieu. Mais parce qu'il a eu ce cœur simple, parce qu'il a eu ce cœur humble, parce qu'il a su garder de bonnes dispositions de cœur, alors qu'il y avait tout pour le faire sortir de ses gonds. Et aujourd'hui, des situations qui sont là parfois pour nous faire sortir de nos gonds, ce n'est pas ce qui manque. C'est pour nous énerver, pour nous agacer, tout ça. Mais qu'importe, il garde les bonnes dispositions de cœur. Et à partir de là, Dieu l'élève. Et la leçon spirituelle, pour nous, elle est tellement importante. C'est que, déjà, premièrement, ce qui nous fera vivre des temps forts avec Dieu. Et là, il en a vécu un. Faire tomber ou terrasser Goliath, il a vécu un temps fort, vous voyez. Et je crois qu'on soupire tous après le fait de vivre des temps forts, la gloire de Dieu. Mais ça commencera toujours d'abord par de bonnes dispositions de cœur. Ça partira de là. Vous voyez, ça partira de là. Ce qui permettra à Dieu de nous faire rentrer dans ses plans, quels qu'ils soient, ce qui permettra à Dieu de nous utiliser, quelle que soit la manière dont il veut nous utiliser, eh bien c'est d'avoir d'abord de bonnes dispositions de cœur, d'être simple. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Quelqu'un l'a dit, je crois, dans sa prière tout à l'heure. Voyez, et David, il le fait, franchement. Livreur de fromage, quoi. Livreur de pain. Super ministère, hein. Mais il le fait. Gardien de chèvres et de brebis, là. Tout ça. Et il le fait. Et il ne rechigne pas, il ne râle pas. Il ne fait pas le bouddhiste, hein, voyez. Non, ben il le fait. Mais Dieu a vu son état de cœur, voyez. Dieu a vu son état de cœur. Et je crois que c'est important de réaliser que David, il ne s'est pas laissé griser par l'onction. Il ne s'est pas laissé griser par l'onction. Il a gardé ses bonnes dispositions de cœur. Et c'est ça qui a fait la différence entre lui et Saül. Et quand je réfléchissais à ça, je me disais, mais il y a tellement de choses aujourd'hui que nous rencontrons dans nos situations, dans nos vies, dans nos circonstances, qui sont là pour détériorer nos dispositions de cœur. Qui sont là pour faire en sorte que, bon, ben jusque-là, c'était bon, tu es disposé à plaire à Dieu, à servir Dieu, à marcher avec Dieu, à faire des choix pour Dieu. On était là, disposé vraiment à tout faire, du moins tout ce qu'on pouvait pour honorer Dieu. Et tout d'un coup, il y a un truc qui apparaît, machin, une graine de sable, une situation, un problème. Et tout ça est là pour, quelque part, on perde nos bonnes dispositions de cœur. Et on est tous logés à la même enseigne. Les uns, c'est un problème de santé. Les autres, c'est le travail. Les autres, c'est les enfants. Les autres, c'est la famille. Les autres, c'est... Et que sais-je encore ? Il y a tellement de choses qui sont là pour, quelque part, ruiner nos bonnes dispositions de cœur. Et quand notre cœur commence à ne plus être disposé, mais c'est terrible, hein ? Vous pouvez faire ce que vous voulez après, mais... Vous voyez ? Je crois que c'est important quand on réalise que ce qui a amené David là à se retrouver au bon endroit, au bon moment, c'est ses dispositions de cœur. Et peut-être ce soir, j'aimerais peut-être nous poser la question, mais où en sommes-nous dans nos dispositions de cœur? Je me le dis à moi, où est-ce que tu en es? Parce que quelque part, aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour nous faire perdre nos bonnes dispositions de cœur pour Dieu. Tout. Pour nous énerver, pour nous irriter. Pour nous faire mettre en colère, pour mal réagir. C'est pas simple, hein ? quand on veut garder un cœur vrai, un cœur honnête, un cœur droit, un cœur sincère, un cœur qui plaît à Dieu, c'est pas toujours évident. Et quelque part, on peut être bien disposé, il suffit d'une situation, d'un problème qui surgit, c'est pas... Et personne n'est à l'abri. Hein. Vous et moi et vous. Hein. Voyez, et parfois même, on le voit pas venir. Peut-être même on se pensait au-dessus, en se disant « Non, non, ça ne me touchera pas. » Et puis quand ça nous arrive, t'es, paf ah. Et là, on se rend compte que finalement, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, on n'est rien. Hein. Et peut-être justement, ce soir, je ne sais pas, on passe par des moments difficiles, tout ça. Et parfois, je me dis, alors je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, hein. est-ce qu'il y a parfois des situations qui ne sont pas là et quelque part qui se passent et... Je ne vais pas dire que Dieu s'en sert, mais c'est aussi là pour voir si on va garder nos bonnes dispositions de cœur ou pas. Vous voyez ? Est-ce que je vais garder mes bonnes dispositions de cœur ou pas ? Des fois, il y a des choses, on se dit, mais pourquoi Dieu ? Je ne vais pas dire laisse faire, parce que Dieu est au contrôle, il fait ce qu'il veut. Mais je vais prendre un exemple, David. Quand même, il a reçu l'onction. Et Saül, il lui fait des crasses. Et il lui en fait... Enfin, j'en parlerai peut-être dimanche. Et puis deux fois, il a l'occasion de lui régler son compte. Et il ne le fait pas. Et des fois, il aurait pu se dire, David, mais Seigneur, pourquoi tu laisses faire ça? Regarde comment il est. Regarde ce qu'il fait. Seigneur, ce n'est pas normal. Et vous êtes là et vous subissez ça. Les choses, des fois, on les subit. C'est indépendant de notre volonté. David, il subissait. Des fois, on se dit, Seigneur, mais pourquoi ? Mais pourquoi tu n'interviens pas ? Pourquoi, hein, là, dans le cas de Saül, pourquoi tu ne lui règles pas son compte ? Des fois, il y a des choses, on voudrait bien que Dieu intervienne, quoi. Vous voyez, Seigneur, c'est pas normal. Hein, c'est moi qui ramasse, hein, etc., etc. Et des fois, ça sert un peu à voir. Est-ce que je vais garder mes bonnes dispositions de cœur ? Parce que quand tout va bien, c'est facile, hein, de dire, je te loue, je te glorifie, alléluia, je viens. Mais quand c'est plus difficile ? Quand ça barde, vous comprenez le sens dans lequel je le dis de manière générale, garder des bonnes dispositions de cœur pour Dieu, ce n'est pas toujours simple. Vous voyez ? Mais David, c'est un homme qui a su garder de bonnes dispositions de cœur. Et ce qui est extraordinaire chez lui, c'est que même dans ses erreurs, il a su garder de bonnes dispositions de cœur. Même là, on peut se tromper, hein. On peut faire des erreurs, on peut même se planter, lamentablement, comme David. Mais ce qui me fait dire ça, c'est que vous rappelez, quand Nathan vient le trouver, il a fait une erreur, il dit « j'ai péché », et puis il va écrire le psaume 51, je l'ai déjà dit, je vais le redire ce soir. Dans ce psaume 51, jamais il ne parle de Bathsheba. Il ne commence pas à essayer de se dédouaner, essayer de se, quelque part, de se rattraper un peu aux branches en disant « il n'y a pas que moi, on était deux, et puis pourquoi elle était toute nue là devant moi, là, hein, elle avait qu'à s'habiller ?» Non, il ne parle pas de tout ça. Il ne parle pas d'elle, il dit « mais je reconnais mon iniquité ». Il a de bonnes dispositions de cœur. Même là, dans ses erreurs, il sait reconnaître ses erreurs. Il sait reconnaître que quelque part, ben, il va dire « Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut. Ne me retire pas ton esprit saint. » Vous voyez, il a de bonnes dispositions de cœur jusque-là. Vous voyez. Et je crois que c'est important de réaliser que tout l'enjeu de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on passe, l'enjeu de la vie chrétienne, il est là. Garder de bonnes dispositions de cœur. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Tout est là parfois pour nous faire sortir de nos gonds. Tout est là parfois pour nous déstabiliser. Tout est là parfois pour nous amener à faire comme tout le monde. Tout est là parfois pour nous amener peut-être à, voyez, à ben finalement, puisque c'est comme ça, vous voyez, c'est pas simple. Et c'est là que est-ce que je vais garder mes bonnes dispositions de cœur pour Dieu ou pas? Est-ce que comme David, ben, quand tant pis. David a été méprisé par Saül pendant un moment. Eh bien, c'est pas grave. Vous voyez. Jusqu'au bout, il a gardé ses bonnes dispositions de cœur. Et je crois que ça, c'est important. Ça, c'est important. Et encore aujourd'hui, que vraiment, c'est ma prière et mon désir que Dieu nous aide à garder de bonnes dispositions de cœur parce que c'est ça que Dieu regarde en premier. C'est d'abord là que Dieu regarde en premier. Regardez, peut-être un ou deux textes encore. Regardez, on va au chapitre 18. 1 Samuel 18, verset 5. 1 Samuel 18, verset 5. Regardez, là on est après le combat de Goliath. Et il est dit, David, écoutez bien, allez et réussissez partout où l'envoyait qui ? Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Hein, ça montre quelque part, même là, il a gardé son cœur de serviteur. Et la différence dans ce chapitre 18, c'est que on se rend compte que David avait des bonnes dispositions de cœur avant l'onction. Après l'onction, il a su garder de bonnes dispositions de cœur, on l'a vu. Mais après l'affaire Goliath, où il l'a terrassé, il y a un truc de plus dans sa vie qui s'est rajouté à l'onction. Vous savez c'est quoi? Ça peut vous faire tourner la tête. Hein, la notoriété. Parce que maintenant, David, tout le monde le sait, d'ailleurs, on n'a pas lu, hein, David a tué ses 10 000 et Saül ses 1 000. D'ailleurs, l'autre, ça l'a mis dans un état pas possible, le Saül. Hein. C'est là. Mais il a la notoriété. Et la notoriété, ça peut vous faire tourner la tête. Hein. Il y en a des qui... Ben, je remarque une chose, c'est que David, avant l'onction, après l'onction et après la victoire contre Goliath, il a l'onction, il a la notoriété. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il est au service de Saül. Et il fait ce que Saül lui dit. Un cœur humble, un cœur simple, un cœur de serviteur, un état de cœur qui plaît à Dieu. Vous voyez? Un état de cœur qui plaît à Dieu. Il aurait tout eu là pour lui faire tourner la tête. Pour se prendre pour je ne sais pas trop qui. Ben non, il est là. Il est au service de David. Tout à l'heure, ça je ne te l'ai pas donné Marie-Paul, on a vu que Eliab a été rejeté. Et Eliab, à un moment donné, un petit peu plus loin, il est question de lui dans le combat juste avant contre Goliath. Alors je ne te l'ai pas donné, c'est 1 Samuel 17, verset 27. Rappelez quand David qui fait le livreur de fromage, le livreur de pain arrive, il tombe sur son frangin. Et le frangin, alors je prends juste ce qui m'intéresse, hein. 1 Samuel 17, verset 27, le peuple répétant les mêmes choses lui dit « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera » parce que David avait dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire à cet incirconcis-là ? On ne dit rien, personne ne dit rien, il est en train d'insulter l'armée du Dieu vivant et personne ne dit rien. » Alors le peuple dit « Ben si, voilà ce qui va arriver à celui qui le tuera. » Regardez, verset 28, merci. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit, lui. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Écoutez bien, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Vous savez ce qu'il lui fait là? Il lui fait un procès d'intention. Il lui fait un procès d'intention. Parce qu'il n'était pas descendu pour ça, hein. Il était descendu, un, pour obéir à son père, et il était descendu pour faire du bien, notamment à lui, à Eliab, en lui portant du pain. Vous voyez? Et quelque part, vous avez David qui vient, quelque part, pour bénir son frère, en lui apportant, lui et les deux autres, vous voyez? En lui apportant ce que le père voulait pour eux. Et qu'est-ce que fait le frère? Alors, je vais le dire avec mes mots. Hein. Il le démonte. Il le démonte, il le détruit. Ouais, je connais ton orgueil, je connais ta malice, gna 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 gna. Vous avez vu un peu l'état de son cœur? Moi, je comprends qu'avec un cœur comme ça, Dieu dit, je l'ai rejeté. Hein. C'est même pas la peine qu'il commence. Hein. Parce qu'il n'avait même pas commencé, Dieu dit, je l'ai rejeté, lui. C'était même pas la peine qu'il commence. Hein. Regardez l'état de cœur qui était le sien. Il s'enflamme de colère. Voyez. Et vous avez tout ce qu'il lui dit? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je crois que cette réaction, elle montre qu'il n'avait pas digéré l'épisode de l'onction. Voyez. Et que ce soit le petit dernier qui reçoive l'onction alors que lui, il était l'aîné, alors ça, c'était là. Et ça, il ne l'avait pas avalé. Voyez. Son orgueil en avait pris un coup, justement. Voyez. Son orgueil en avait pris un coup. Et le fait que je connais ton orgueil, en fait, quelque part, ça reflète ce qu'il y avait dans son propre corps à lui. Voyez. Avec un tel état de cœur, c'est évident que Eliab, Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Voyez. Et je crois quand même, je vais terminer là, mais je crois que dans notre cœur ce soir, les uns et les autres, on a tous envie que Dieu nous utilise. On n'est peut-être pas appelés les uns, chacun à la même chose. On n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous les mêmes facilités, mais tous, là où Dieu nous a placés, dans notre domaine de compétences, et des fois même si on n'est pas compétent, Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Mais pour ça, ça passe par de bonnes dispositions de cœur. Moi, j'ai connu, franchement, avec les années un peu, dans les églises où on est passé, j'ai connu des gens qui étaient hyper compétents dans tout un tas de domaines. Ils avaient des capacités, des qualités indéniables, indéniables. Mais ils étaient inutilisables. Vous ne pouviez rien leur dire, ça se vexait pour un oui ou pour un non, ça prenait tout mal. Pour un simple truc, pendant un mois, vous ne les voyez plus. Pourtant, il y avait des capacités, il y avait des qualités, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi. Mais les dispositions de cœur, elles n'étaient pas bonnes, quoi. Et ma prière, c'est que Dieu nous aide et que Dieu m'aide, parce qu'on est tous logés à la même enseigne. Hein, regardez tous ceux qui sont tombés dans la Bible, qui étaient haut placés, et parce qu'ils n'ont pas su garder leur cœur. D'ailleurs, celui qui a dit « garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui venaient les sources de la vie », c'est le premier qui n'a pas su le faire, Salomon. Que Dieu nous aide à garder notre cœur plus que toute autre chose, garder les bonnes dispositions de cœur. Et peut-être en ce moment, on passe par des difficultés, par des souffrances, par des combats. Et c'est pas toujours simple, quel que soit ce qu'on met derrière le mot combat. Peut-être en ce moment, c'est pas simple. Et des fois, on aurait tendance à essayer de se débattre. Et on se débat, c'est notre nature, on est comme ça. Mais qu'au milieu de tout ça, avec l'aide et la grâce de Dieu, on puisse dire « Seigneur, aide-moi à garder de bonnes dispositions de cœur. » Parce que Dieu ne pourra me parler que si je garde de bonnes dispositions de cœur. Si je ne suis pas bien disposé, comment vous voulez que Dieu me parle? Je ne l'entendrai pas. Et je me rends compte que des fois, certainement Dieu m'a parlé, je ne l'ai pas entendu parce que je n'étais pas bien disposé. Parce que voilà, hein, des fois, on peut être bougon, on peut aigre, parce que ceci, parce que cela, et à tort ou à raison. Mais le problème, c'est que ça nous rend sourds. On ne voit plus, on n'entend plus, on ne comprend plus. Et, oh, Seigneur, aide-moi, aide-nous à garder de bonnes dispositions de cœur. Alors, c'est facile de le dire quand tout va bien. Hein. C'est plus compliqué quand ça va moins bien. Mais Seigneur, je veux garder de bonnes dispositions de cœur. Et je crois que ça nous concerne tous. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Et comme David, qui est passé par tout un tas de choses, hein, mais Seigneur, aide-moi, même si je me trompe. Ben si, peut-être, comme je disais mardi soir, peut-être on s'est trompé, on a fait une boulette. Eh bien, viens devant le Seigneur, repens-toi. C'est ça, moi, de bonnes dispositions de cœur. Tu viens devant Dieu, tu dis, ben, Seigneur, oui, je me suis mal comporté, j'ai mal parlé, je te demande pardon. Voyez, c'est ça, moi, de bonnes dispositions de cœur. Je reconnais, Seigneur, je ne commence pas à chercher à minimiser, à cacher. On en parlera dimanche de cacher. Voyez. Mais que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. C'est ce que Dieu regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est ça qui l'intéresse. Seigneur, ce soir, Dieu regarde notre cœur. C'est comme si, j'ai entendu cette expression il n'y a pas longtemps, Dieu nous scanne. Et croyez-moi, le scan de Dieu, je ne me trompe pas. Nathanaël, d'où me connais-tu? Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Non mais, le Seigneur pourrait nous dire hein, la même chose. Hein. Tu sais, je te vois à ton boulot, hein. Je te vois dans ta voiture, je te vois là. Le Seigneur nous scanne. Seigneur, aide-moi à avoir de bonnes dispositions de cœur. Seigneur, c'est tellement important. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Alors, Seigneur, aide-nous. Et si peut-être ce soir, il y a des sentiments qui sont là dans notre cœur, mitigés, il y a un combat intérieur, ben, Seigneur, je t'apporte mon cœur pour que tu m'aides à le garder plus que toute autre chose. Alléluia. Seigneur, je te demande vraiment de nous aider les uns et les autres. Tu connais les luttes et les combats. Tu connais, Seigneur, tout ce que nous traversons. Seigneur, rien ne t'est caché, Seigneur. Tout est à nu et à découvert devant toi. Seigneur, et tu connais les aléas des uns, des autres, les combats, les larmes, les pourquoi. Mais au milieu de tout ça, Seigneur, aide-nous, aide-moi à garder de bonnes dispositions de cœur. Je vois ces gens, Seigneur, que tu as dit, je les ai rejetés, Seigneur. Seigneur, je vous demandais vraiment de nous aider, Seigneur. Merci parce que tu es plein de compassion, tu es plein de grâce. Seigneur, aide-nous à garder de bonnes dispositions de cœur pour toi, Seigneur. Il y a tellement de choses pour nous indisposer. Je te prie peut-être pour quelqu'un ce soir qui, Seigneur, est indisposé à cause de tout un tas de choses. Seigneur, je te demande vraiment de le bénir, de le visiter, Seigneur. Merci parce que tu nous aides, tu es notre secours, Seigneur. Et nous t'apportons, je t'apporte mon cœur, Seigneur, pour que tu m'aides à le garder plus que toute autre chose, Seigneur. Afin que, Seigneur, le jour où tu viendras nous chercher, Seigneur, nous soyons prêts, je sois prêt, Seigneur. Ah, Seigneur, oui, enchanté, Seigneur, je veux être saint, Seigneur, mais Seigneur, je te demande de nous aider, de m'aider, Seigneur, à garder mon cœur pur, Seigneur, à garder mon cœur, Seigneur, de toute chose qui pourrait te déplaire, Seigneur. Alors viens, Seigneur, et aide-nous, secours-nous, Seigneur. Encore merci parce que ce soir même, tu ne regardes pas nos iniquités et on peut venir te demander pardon, Seigneur. Alors à toi la gloire, bénis mon frère, bénis ma sœur. Seigneur, renouvelle les forces de chacun, renouvelle le courage de chacun. Et je te dis, Seigneur, à ton nom soit toute la gloire, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur, garde-nous en toi. Je te le demande encore ce soir au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on veut garder.